Oasis interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme en ce dimanche. J'espère que vous avez peut-être cuisiné un petit brunch avec des petits pancakes ou des petites crêpes ou des petites gaufres avec de la confiture et des trucs un peu bons à manger, peut-être des œufs et un peu de jambon et tout. J'espère que vous vous êtes fait plaisir parce que c'est le maître mot pour ne pas se laisser couler quand on est chez soi. Ça et le sport. Alors pour le sport, je suis un peu mal parlée, un peu mal placée pour en parler. J'espère que ma mère n'écoute pas cette émission. Mais quoi qu'il arrive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient donc pour la 15e émission déjà sur les traces d'Ella Maillard vers les oasis interdites. Aujourd'hui, on part pour Keria. J'espère que vous êtes bien installés et c'est parti. Chapitre 8, Luxe à Keria. Sur une route maintenant large et bien faite, nous rattrapons des vaches, des moutons. Près de nous, construits en gradins et inondés de petits champs de riz en forme de demi-lune, brillent au soleil. Enfin, nous gagnons le bourg aux rues bordées d'étalages de fruitiers. Les femmes au visage découvert portent de grandes robes de soie ornées sur la poitrine de 5 barres qui évoquent une aile d'aigle stylisée. C'est l'emblème des femmes mariées. Au bout d'une sinueuse rue pavée, nous franchissons le seuil d'une petite cour fleurie de lauriers roses. Nous sommes chez l'ex-sakal Rolan Mohamed Khan. Dans la chambre où nous entrons, Peter et moi ouvrons des yeux ronds. Un parapluie pend à une patère, un assortiment de lampes à pétrole voisine avec une lampe électrique de poche, une chaise de pont s'allonge dans un coin et plusieurs horloges ornent les murs. Le soir, comble de luxe, nous dormirons entre des draps blancs sur la plateforme surélevée qui entoure la cour. Dans une chambre voisine, une machine à coudre tressote sans interruption. Un jeune homme qui tousse fabrique en série les calottes que les chantos portent sous leur turban. D'origine afghane, notre hôte au fin visage allongé d'une barbe noire est coiffé d'un turbouche et se sert d'une canne. Il est chaussé de splendides bottines de cuir jaune qu'il ne lasse qu'à moitié avec un kalat de soie qui cache son complet clair coupé à l'européenne. Il nous offre sans cesse du miel, de la confiture de rose, de petits pains, des bonbons russes marque Stratosphère, des biscuits ou même du canard froid, tandis que nous conversons avec difficulté en chinois. Revêtus de nos plus beaux atours, c'est-à-dire d'une chemise propre, nous partons en compagnie de notre ex-sakal pour interviewer les autorités militaires et civiles de Keria. Ma Fuyang, général de brigade au crâne tondu, au front bas et ridé, ne sait pas lire les cartes de visite chinoises que nous lui présentons. Il fait alors appeler son secrétaire, un élégant jeune chinois au sourire charmant. Ce lettré natif de Lanzhou connaît le Times et sait même où sont la Suisse et Genève. Quelle surprise ! Sitôt les politesses échangées, nous faisons glisser la conversation sur Ma Junyin, le chef renommé dont nous aimerions connaître la résidence. Et nous avons cœur à sceller notre étonnement en apprenant que Ma Junyin se trouve à Koh Tan, où nous serons dans 5 jours. Mais nous ne le verrons pas, car il s'y trouve incognito. De même que nos hôtes, nous rions poliment et nous faisons semblant de croire à ce que l'on nous dit. Serait-il donc néfaste à la cause d'Ungan que Ma Junyin soit à Moscou, puisqu'on ne veut pas l'admettre ? La caserne est proprement tenue, ainsi que les centaines de vieux fusils alignés sur leur râtelier. On nous raccompagne cérémonieusement jusqu'à la porte d'entrée, et là, sur la place d'armes, malgré la chaleur extrême, quelques jeunes recrues dégingandées vêtue de pyjama blanc, joue au basketball. Puis, l'Aksakal nous présente au maire, que nous trouvons au bout d'une enfilade de cours qui forme un yamen imposant. Ce beau turquie en kalat de taffeta vert n'ose guère se plaindre ouvertement de la dictature d'Ungan, mais nous comprenons qu'il n'est pas libre de démissionner de ses fonctions et qu'il ne peut immigrer aux Indes avec sa fortune, faute de passeport. Et nous disant adieu, le maire nous promet les 5 ânes et les 2 chevaux que nous désirions louer. Rola Mohamed Khan nous emmène déjeuner dans sa maison de campagne, encore en construction, pour y manger un palo, plat national du Turkestan. C'est du riz au gras très léger, agrémenté de carottes, de raisins secs et de morceaux d'agneau sauté. Grâce à une aiguillère d'eau chaude, on se lave les mains avant, comme après le repas, et l'Aksakal mange avec ses doigts, selon la tradition, tandis qu'on nous donne des couverts. Par les larges fenêtres, nous admirons le verger. Dans une aile basse de la maison, au fond d'un couloir, se trouve le quartier des femmes où je rends visite à la femme de l'Aksakal. Auprès d'elle se tient la jeune Meraj, la charmante fillette de l'Aksakal. Ce dernier, quoique âgé déjà, a une jolie femme jeune au visage souriant qui semble heureuse de vivre entre ses enfants et sa vieille mère. Que puis-je savoir de plus ? Nous examinons mutuellement les étoffes de nos vêtements. Elle porte son voile de mousseline maintenu sur la tête par une calotte brodée et son ample robe est en soie blanche du pays. Cette soie qu'on dit avoir été introduite au Turkestan grâce à une princesse chinoise venue à Khotan pour en épouser le roi. Malgré la défense des empereurs chinois, elle parvint à cacher quelques cocons précieux dans son turban lorsqu'elle quitta son pays. En revenant vers la ville par de petits chemins creux, nous débouchons sur un champ d'exercice comme je n'en ai jamais vu encore. Là s'élèvent des barres parallèles, des portiques d'où pendent des cordes tanneux et un étonnant mur de planches, simulant sans doute une muraille à prendre d'assaut. Tout près de là, à l'ombre des saules, aux racines rouges et chevelues qui bordent le canal, les centaines de chevaux pansus des militaires prennent le frais. Il paraît que ces jours-ci, les autorités ont réquisitionné les œufs par milliers, la graisse de mouton et les briques de thé de l'oasis pour en faire une bouillie destinée à varier le régime de maïs qui engraisse trop leurs chevaux. Rentrés à la maison, nous trouvons Aziz qui attend notre arrivée. Il se jette aussitôt au pied de l'Aksakal, lui embrasse les genoux en multipliant ses « Aotayen ». Nous finissons par comprendre que le Yamen veut l'obliger à continuer jusqu'à Khotan avec nous, alors que son contrat passé lui donne le droit de s'en retourner à Tchertchen d'ici même. Que faire ? Heureusement, on annonce à cet instant un lieutenant-colonel qui vient nous rendre la visite faite à son général. Il griffonne aussitôt un papier donnant un contre-ordre au Yamen civil et l'incident est clos. Ce charmant officier s'est fait précéder par des 2 bouteilles d'eau de Cologne moscovite théiée, un paquet de sucre et un mouton noir. Mais le plus curieux, c'est que le maire, venu en notre absence, a laissé ici des cadeaux similaires. Devant cette avalanche de sucre, je m'empresse d'en donner un paquet au triste garçon toujours rivé à sa machine à coudre. C'est à Keria que nous liquidons enfin une affaire des plus sérieuses, la vente de notre caravane. Un ami de l'Aksakal veut bien nous offrir 1000 yenze pour nos 3 bêtes dont il faut cette fois nous séparer. Jamais nous n'arrivons à comprendre la valeur des sales billets de banque qui ont cours dans la République des Dungan, mais il est évident que nos chameaux sont cédés à vil prix, puisqu'au bazar, une paire de souliers de tennis russes vaut le 10e du prix de nos bêtes, une bouteille d'eau de Cologne vaut 30 lienze et une boîte de cigarettes russes Natcha Marka, 7 lienze. De l'une à l'autre des oasis. Le 3 juillet, à 2h de l'après-midi, nous quittons Keria, chacun sur un cheval. Mais Peter ne se réjouit pas longtemps d'avoir une grande bête à sa taille. Il doit finir l'étape à pied. Les autorités ne nous ont loué que de maigres animaux dont elles ne savent que faire, et le lendemain, mon compagnon quitte Damaka en se juchant une fois de plus sur un âne sans récriminer. Cependant, il doit convenir que ce genre de locomotion rend les pensées tout ce qu'il y a de plus terre à terre. À partir de Caria, nous aurons dorénavant dans chaque village de la peine à louer des bêtes et obtenir de quoi les nourrir. D'ailleurs, ce nouvel âne n'avance guère. Il est fatigant de lui battre sans interruption les flancs avec les jambes. Et Peter préfère marcher. Comme il fait très chaud, nous nous arrêtons chaque fois que nous croisons un marchand de glace assis à l'ombre. Pendant l'hiver, on enterre de la glace. Et l'été, on la débite en petits morceaux, mélangés avec du lait caillé, boisson très désaltérante. Sur la route, nous croisons des bourricots chargés de luzerne, de fagots ou de briques, réquisitionnés par les autorités. Et ce jour-là, un troupeau de chameaux nous barre le chemin près d'un bassin d'eau fraîche. Là, nous voyons comme un jeune chameau de 3 ans est ligoté pendant qu'on lui perce le nez pour la première fois avec une cheville de bois. On pourra maintenant le conduire aisément car il est en âge de devenir une bête de somme. L'officier qui nous observe décide d'éclaircir qui nous sommes et nous force à prendre un bol de thé dans la cour de sa maison. Tusun, qui n'aime pas les Dungan, nous accompagne à contre-cœur. Le 4 juillet au soir, j'arrive en avance dans la riche oasis de Shira en compagnie de Tusun et les soldats que je croise me traitent d'Oros. Rappelez-vous, ça veut dire russe. Lorsque je passe à la hauteur des champs de manœuvre, un régiment de cavalerie est en train de faire coucher tous ses chevaux simultanément, obéissant aux ordres d'un officier grimpé au sommet d'une tour de bois. Peter, tout couvert de poussière, passant au même endroit un peu plus tard, sera interpellé par cet officier, désireux de savoir quel peut être ce vagabond. L'old Etonian réussit à se tirer avec esprit d'une situation qui risquait de mal tourner. Il mit tous les rieurs de son côté en traitant, non sans à propos, l'officier haut perché de Dotadien ou très grand homme. Dans la grand-rue du bazar animé où l'on vend des cocons de verre à soie vert et jaune, un Chinois rassemble les passants et veut à tout prix leur vendre 1 dollar d'argent contre 45 yenzé. Peter l'observe afin d'être sûr de ce qu'il a entendu, puis sort à son tour 1 dollar tout semblable de sa poche pour l'offrir au Chinois. Jugez les rires chez les badauds lorsque le changeur n'en offre plus que 30 yenzé. 3 pas plus loin, sur un charmant petit pont, j'achète 100 abricots pour 1 yenzé. Au caravansérail, où chaque pouce de notre chambre exiguë est couvert de mouches, plusieurs soldats Dungan viennent nous dire rudement, en un russe incompréhensible, « Toi, russe, oui ? À toi, combien d'années ? Donne-moi ton appareil photographique. » Nous faisons comme si nous ne comprenions pas, mais l'un d'eux, dont la figure est poupine et les yeux bridés, c'est le russe à la perfection. Je découvre qu'il est Komsomol, il y a 2 ans à Frunze, capitale du Kirghizistan soviétique, où je me trouvais moi-même en 1932. Nous évoquons l'école de sa ville, qu'il fréquenta pendant 3 ans, puis le cinéma qui s'y trouvait. Là-bas, la vie devenait trop difficile et il était parti pour Kuldia, où il avait laissé sa mère, avant de venir ici. « J'aimerais la revoir, me dit-il. Mon cœur n'est pas tranquille loin d'elle. » Étant Dungan, il s'était joint aux forces de Ma Junyin. Mais, ajoute-t-il, la vie ne va pas tarder à être aussi difficile de ce côté-ci des Tien Shan que là-bas. Les boutiques ferment, les réquisitions sont incessantes et la monnaie perd chaque jour de sa valeur. Lui-même est nourri, il est vrai, et touche 30 lienzés par mois, mais ils se plaignent de n'avoir pas une minute de loisir avec toutes ces gymnastiques qu'on leur fait faire, accompagnées d'incessantes répétitions de chants militaires. Ils sont plusieurs qui, comme lui, ont réussi à quitter l'URSS et ce serait un nommé Pashkov qui enseigne aux chevaux les exercices mongols que nous avons vus. Mon Komsomol affirme enfin que Majounin est allé à Moscou demander de l'aide à Staline. Quand il reviendra, il fera la guerre aux Chinois, Ramoli, et les Russes lui laisseront prendre Urumqi. Quand je parle à tout moment de révolte, de guerre civile, de chefs disparus, et je qualifie le Xinjiang d'inaccessible, il est temps que je donne quelques détails sur ce qui me semblait incompréhensible vu de Pékin. D'ailleurs, les obstacles susceptibles de rendre un voyage transasiatique impossible étant avant tout politique, c'est en étudiant cette énigme que je ferai comprendre en quoi notre chevauchée fut hasardeuse. Maintenant aussi que nous approchons de Koh Tan, capitale de la République des Dungan, il est temps de voir comment cette république s'est créée. Chapitre 9. Le Xinjiang. Le Xinjiang, dont la superficie est double de celle de la France, est isolé du reste du monde par les plus hautes montagnes et le plus grand désert qui soit. Mont Céleste, Pamir, Karakoram, Kuen-Lun et Gobi. La seule voie naturelle qui mène vers cette immense région passe par la Sibérie. Au sud, la plus grande partie du Xinjiang est constituée par le désert de Takla-Makan, où coule le Tarim et ses affluents. Les oasis fertiles n'occupent que 1,5% de sa surface. Cette province, qui est la plus vaste de Chine, ne compte guère que 3 millions d'habitants, pour la plupart des Turquis musulmans. Il semblerait que cette région ne présente rien qui puisse exciter la convoitise des conquérants. C'est sa valeur stratégique qui en fit de tout temps l'objectif de ses voisins ambitieux. Mais pourquoi fut-elle toujours aussi à leur merci? Les habitants, pour la plupart d'origine iranienne et turquisée au début de notre ère par les invasions des Ouïghours alliés aux Huns, sont des agriculteurs sédentaires aux mœurs douces. Ils ont besoin de tout leur temps pour irriguer leurs champs et n'ont jamais eu les moindres penchants guerriers. Et aucun sentiment national ne les a jamais liés. Toutes les oasis étant séparées de leurs voisines par un désert qu'on ne traverse pas volontiers, chaque village vit dans l'isolement grâce à un système économique fermé. Seul, jusqu'à ces derniers temps, le fanatisme de l'islam les a soulevés lorsque l'oppresseur chinois et bouddhiste devenait insupportable. Autrefois, la Chine, qui fut pendant 2 millénaires le seul voisin puissant du Xinjiang, s'est vue contrainte de s'emparer de ce lointain pays pour des raisons stratégiques chaque fois qu'après une période de désordre, elle voulait affirmer à nouveau son hégémonie asiatique. C'était le seul moyen de prévenir les attaques des barbares qui, malgré la grande muraille construite dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, faisaient des incursions dans l'Empire du Milieu. D'autre part, la suprématie chinoise devant le bassin du Tarim assurait le trafic des caravanes sur la route de la soie qui fut longtemps le seul moyen de communication entre le Cathay, comme on nommait alors la Chine, et l'Europe. Les Chinois sont déjà maîtres du Xinjiang au 1er siècle avant Jésus-Christ, sous les Han. Puis, sous les fortes dynasties des Tang, 7e siècle, et les Mongols, 13e siècle, la Chine reconquiert, après une période d'éclipse, ses marches occidentales. Enfin, en 1759, l'empereur mandchou Qianlong étend à son tour son pouvoir jusqu'au Pamir. Par-delà la frontière, le Kokand, le Badakhshan et le Baltistan même reconnaissent la suzeraineté de la Chine. Mais des taxes élevées mécontentent les indigènes musulmans qui s'enfuient à Kokand. En 1826, puis en 1846, les Kokandis essayent d'envahir la Kashgari. Seul Yacoub Beg, en 1865, parvient à établir sa domination sur tout le Sinkiang, servi par la révolte qui soulevait alors les musulmans contre les Chinois. Ce nouveau conquérant turquie, fils d'un juge de Tashkent, avait fait la guerre aux Russes avant d'accompagner, comme chef d'escorte, le Khan de Kokand que Kashgar avait appelé à l'aide. Aussi, lorsqu'une armée chinoise marcha contre lui en 1877, Yacoub Beg n'eut-il pas l'appui des Russes. Prévoyant sa défaite, il se donna la mort. Son vainqueur, le gouverneur du Kansu Tso Tsong Tang, qui était parti en guerre de sa propre initiative, rendit à la Chine le Sinkiang, qui fut érigé alors en 19e province. Aujourd'hui, la Chine a perdu une fois de plus la maîtrise de ses provinces éloignées, Tibet, Sinkiang, Mongolie et Mandchourie. Mais les circonstances de ce démembrement sont inédites et un bref aperçu montrera l'importance actuelle du Sinkiang pour les destins de l'Asie. Démembrement de la Chine. Jusqu'aujourd'hui, la Chine avait toujours su, par une longue expérience, quelle diplomatie pouvait lui permettre de reconquérir les provinces dont la perte avait ébranlé son pouvoir. Mais au XIXe siècle, l'attaque des Occidentaux, venue par la mer, constitue un fait nouveau auquel la dynastie Mandchou, décadente, ne sait pas s'adapter. En voulant appliquer la vieille tactique chinoise qui consiste à opposer l'une à l'autre les nations ennemies, la Chine subit des empiètements désastreux. Concessions, emprunts, contrôles étrangers, occupations militaires et navales. La période actuelle voit redoubler d'acuité les convoitises continentales. Le Japon, acharné à décomposer la Chine, est maître du Mandchoukuo. L'URSS contrôle la Mongolie extérieure. L'Angleterre protège le Tibet extérieur et le Yunnan est dans une zone d'influence française. Au-dedans de cette ceinture, les territoires encore nominalement chinois de la Mongolie intérieure, du Sinkiang et du Tibet intérieur sont bouleversés par des soulèvements ou par la convoitise de leurs voisins. Et le moindre événement qui se produit aujourd'hui dans l'un de ces territoires passe l'intérêt d'un incident local. Tel un coup de sonde dans un abcès prêt à éclater, il indique aussitôt aux intéressés la balance des forces. Les voisins du Sinkiang. Alliés et non sujets de la dynastie Mandchou régnante, les Mongols se détachèrent de la Chine lors de la Révolution en 1911. Au sud de la Sibérie, la Mongolie extérieure, avec environ 1 million d'habitants, est reconnue indépendante en 1924 après diverses péripéties et évacuée par l'armée rouge. Mais des conseillers soviétiques sont restés dans le gouvernement populaire, entre guillemets, formé par de jeunes Mongols partisans de réformes nombreuses. La Mongolie mandchoue, 2 millions d'habitants, a été érigé en province autonome de Hingan par les Japonais du Mandchoukuo en 1933. Ces Mongols forment un groupe conservateur autour de princes qui semblent attachés aux vieilles coutumes. Dans la Mongolie intérieure, 1 million d'habitants, toute proche de la Chine dont elle fait en principe encore partie, les Mongols nomades demandent vainement aux Chinois de Nankin de protéger leurs intérêts menacés par l'implacable avance des colons chinois qui mordent chaque jour sur leur pâturage. Mais les colons sont naturellement soutenus par les autorités et les nomades groupés autour de Te Wang n'obtiennent rien. Trop faibles pour être indépendants, les Mongols ont à choisir entre deux tendances opposées. Au nord, les révolutionnaires soviétisés, à l'est, les conservateurs japonisés. Quoi qu'ils se prononcent pour l'un ou l'autre de leurs voisins, l'équilibre actuel des forces sera rompu. Soit l'URSS, soit le Japon verra ses positions flanquées par l'ennemi en cas de guerre. La Mongolie intérieure qui borde le Xinjiang voit donc son importance stratégique s'accroître à mesure que l'emprise continentale du Japon s'étend au-delà de la Mandchourie. Le Tibet, au sud du Xinjiang, se sépare de la Chine à la Révolution de 1911. Il est sous le protectorat britannique depuis 1904, date d'une intervention armée à Lhasa destinée à ouvrir le pays au commerce anglais tout en combattant l'influence russe qui croissait au Tibet. Depuis la mort du Dalai Lama en 1933, nul ne sait quelle influence domineront sous les prochains règnes. Quant au Tibet intérieur, qui dépend de la Chine, il a été partagé en 1929 en provinces de Sichuan et Kukunor au Qinghai pour être plus facilement gouverné. Force présence au Xinjiang. La plus grande des provinces chinoises, le Xinjiang, est fort difficile à gouverner. D'une part, l'administration civile n'y est supportée que par une force militaire insignifiante. Elle est 4 ou 5000 km qui la séparent de la métropole, rendent presque impossible l'envoi de secours. D'autre part, les habitants turquis, kirghizes, mongols ou dungans de Dzungari doivent être gouvernés avec circonspection par l'intermédiaire de chefs indigènes. Pour le gouverneur du Xinjiang, qui réside à Urumqi, ses administrés musulmans représentent un danger constant. Dans les mains d'étrangers, ils peuvent s'unir contre la domination chinoise et nous avons vu Yacoub Beg mettre ainsi à profit un soulèvement musulman. De plus, il faut tenir compte des Dungans occupant la province voisine du Kansu, qui ont toujours été mêlés aux troubles du Xinjiang. Ils y sont à peu près 3 millions, alors qu'environ 20 millions de musulmans vivent en Chine, et jouissent d'une très grande influence, leur énergie leur ayant permis d'occuper tous les postes importants. Les Dungans ont la réputation d'être de cruels guerriers, et leur rébellion ensanglante périodiquement la Chine du Nord-Ouest. À peine le pays s'est-il relevé des troubles dévastateurs de 1862 à 77, qu'éclata la révolution de 1895 au Kansu. Le moindre prétexte, tel le rapt d'une femme mahométane, est bon aux Dungans pour donner le signal de massacrer les Chinois détestés. Hesfen Hendig raconte qu'à ce moment-là, 18 000 soldats Dungans furent exécutés à titre de représailles dans le village de Tangar seulement. Enfin, dernièrement, c'est à Hami, au Xinjiang, qu'éclate en 1931 une révolte musulmane dont les suites se font encore sentir aujourd'hui. Que venait-il de se passer ? Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On est à la moitié d'un chapitre, mais le fait est qu'il est encore long. Et on se retrouve demain toujours à 14h afin de continuer cette petite histoire en fait, puisque jusqu'à maintenant Ella Maillard nous racontait son épopée, mais là on sent bien qu'elle a besoin de nous parler de l'histoire de la Chine et des différentes phases entre les Russes et les vagues musulmanes, pour nous faire comprendre quelle est la situation géopolitique qui est, comme vous l'avez compris, un peu complexe. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que il me semble qu'il nous reste, entre 6 et 8 jours de lecture des chapitres là pour finir ce livre. Peut-être un petit peu plus, je ne sais pas trop. On a déjà fait une grosse partie. Et à la fin de ce cycle, en fait, on va recevoir Raja Abdelsadok, qui est une étudiante qui a travaillé justement sur les Ouïghours en sociologie, donc ça va être hyper intéressant. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain, lundi. Je vous souhaite un très bon week-end, à très vite sur Campus Grenoble 90.8 et sur le player de Radio Campus France.